Ne passons pas à côté de la liturgie de la parole de cette semaine. Je voudrais attirer votre attention en particulier sur la première lecture du livre de la sagesse, qui mérite que dans la semaine nous prenions un peu de temps pour la relire, la méditer, tellement elle est belle et tellement elle est source d'espérance, de confiance. Voyons l'auteur du livre de la sagesse décrire ce cœur de Dieu. Seigneur, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres, etc. Ne passons pas à côté de ce texte magnifique. Et puis, je vous signale aussi le refrain du psaume. Nous l'avons chanté tout à l'heure. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Vous savez que souvent le refrain de psaume, c'est un verset de psaume lui-même. Quelquefois un verset du psaume que l'on lit ou chante ensuite, quelquefois un autre verset ou quelquefois une parole d'évangile. Là, pour une fois, et je ne sais pas si c'est pas le seul cas dans la liturgie de la parole, ça n'est pas tiré de la Bible, mais c'est une parole d'un père de l'Église, c'est une parole de saint Irénée. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Pour qu'on soit allé chercher cette parole chez saint Irénée, il faut qu'on ait considéré que c'était quelque chose qui avait du poids, qui avait de l'importance, pour qu'on le prenne là comme refrain de psaume à la même place que la parole de Dieu. Voilà, alors ça aussi, ça mérite peut-être d'alimenter notre prière. Voilà ce que cherche Dieu. C'est que nous soyons des vivants. C'est l'épanouissement de notre vie. Je lis aussi dans l'Évangile beaucoup de raisons d'espérer. Et je voudrais vous en donner quelques-unes. D'abord, il y a cette dernière parole de Jésus qui conclut toute son action là vis-à-vis de Zachée. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quand nous risquons de désespérer, peut-être un peu de nous-mêmes, peut-être des autres, il faut nous rappeler cette parole de Jésus. Le Fils de l'homme, il est venu pour cela, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et si c'est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui pourra l'en empêcher? Rien. Ça, c'est la première raison d'espérer. La deuxième raison d'espérer, c'est dans l'attitude même de Zachée. Zachée, il est l'archétype de ce que les pharisiens peuvent considérer comme éloigné de la loi. Et de fait, c'est un pécheur. Il le reconnaît lui-même quand il va dire « Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus ». Il reconnaît bien qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui ne sont pas très claires dans sa vie. Voilà. Il est non seulement publicain, mais il est collecteur d'impôts. On sait ce que ça voulait dire à l'époque de choses pas très claires, hein. Et il en est même le chef des collecteurs d'impôts. Voilà. Eh bien, cet homme-là, il cherchait à voir qui était Jésus. Cet homme-là, il est habité au plus profond de lui-même par un désir de voir Dieu. Je crois que c'est important de reconnaître en nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, un désir de Dieu qui est là et qui est en quelque sorte quelque chose qui ne peut pas disparaître du fond de notre être. Nous sommes créés comme cela, nous sommes créés pour cela. Il y a cette soif de Dieu en nous. Et ça, quelle que soit notre histoire, quelles que soient nos fautes, quelle que soit ce qu'on a pu faire, qui a pu défigurer en nous notre humanité, nous abîmer, il y a ce désir au fond de nous. C'est vrai de nous, c'est vrai des autres aussi. C'est vrai même de celui que nous croyons le plus loin de Dieu, le plus égaré dans des routes, des chemins de traverse. Il reste au fond de son cœur un désir de Dieu, une attente de Dieu. Ça, c'est, je crois, aussi une grande source d'espérance. Et nous pouvons essayer dans notre journée, avec les gens que nous croisons, que nous croyons loin de Dieu et qui le sont peut-être, de nous dire, il y a quand même au fond de son cœur un désir de Dieu, une attente de Dieu, une soif de Dieu. Et c'est parce qu'il y a ce désir au cœur de Zachée qu'au moment où le Seigneur va lui dire « Il faut que j'aille demeurer chez toi », eh bien, il va être comblé de joie. Il va descendre et recevoir Jésus avec joie, avec joie. La joie, c'est le signe d'un désir qui va être comblé. Voilà. Cette joie, elle est la preuve qu'il y avait ce désir dans le cœur de Zachée. Regardons aussi les autres autour de nous comme des gens qui attendent le Christ et à qui nous pouvons apporter cette joie qui correspond à leur désir profond. Voilà, désir de cela en tout homme. Je n'ai pas retrouvé la citation de Jean-Paul II, je crois, à qui on disait « mais ça ne vous désespère pas de voir tant de sociétés, tant de régimes politiques si opposés à la vérité, à la foi. » Et il disait « c'est la vérité, n'ayons pas peur de dire la vérité. La vérité, elle sera toujours vainqueur. » Voyez, il y a dans le monde une attente de vérité, même parmi les gens qui nous paraissent le plus éloigné. Troisième source d'espérance dans cet évangile, c'est que ce sont peut-être chez Zachée les épreuves mêmes qu'il va rencontrer qui vont le tourner vers le Seigneur. Vous voyez, l'évangéliste nous dit qu'il n'arrivait pas à voir Jésus à cause de la foule, car il était de petite taille. Il va se confronter, je crois, à quelque chose qu'il n'arrive pas à obtenir, tout en étant le chef des collecteurs d'impôts et tout en étant riche. Peut-être même que c'est parce qu'il est le chef des collecteurs d'impôts et qu'il est riche que la foule n'a pas cherché à s'écarter, mais l'a laissé derrière pour lui faire comprendre que s'il avait des richesses, en tout cas, question amitié, c'était peut-être pas ça. En tout cas, il s'est rendu compte de ses limites. Et je crois que dans notre vie aussi, les épreuves sont toujours les occasions de réaliser nos limites. Réaliser nos limites. Nous ne pouvons pas tout. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des créatures, nous sommes finis. Ça pourrait avoir un côté blessant, mais c'est au contraire un côté plein d'espérance, parce que c'est ça qui nous invite à nous tourner vers Dieu. À réaliser que, limités comme nous sommes, ce n'est pas nous qui nous sommes créés, ce n'est pas nous qui nous sommes donné la vie, c'est quelqu'un d'autre. Et voilà, les limites même de notre être, notre finitude, elle peut nous inviter à réaliser que nous sommes faits pour autre chose. Nous sommes faits pour Dieu, nous dépendons de Dieu. Et voilà, devienne l'occasion de nous tourner vers Dieu. Ça aussi, c'est une grande source d'espérance. Chaque épreuve a sa raison d'être, au sens où elle peut nous aider à nous tourner vers Dieu, ne serait-ce que dans une prière qui soit vraie. Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Combien de fois nous disons au Seigneur que nous avons besoin de lui, mais en fait, c'est pas une vraie prière, parce qu'on n'en est pas convaincu. Il faut qu'on soit dans des situations de peine, d'épreuves, pour dire vraiment en toute vérité qu'on a besoin de lui. Voilà. Et puis la dernière source d'espérance que je lis dans cet évangile, c'est que si nous remarquons bien, une fois converti, Zachée va donner de son bien, mais il va donner la moitié. Alors ça, c'est étonnant. Quand on compare, vous savez, au jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui lui dit « Si tu veux être parfait, vends tout et suis-moi. » Et le jeune homme riche repartira tout triste parce qu'il a de grands biens. Eh bien là, Zachée, il va être justifié, c'est Jésus qui le dit lui-même, le salut est arrivé pour cette maison, alors même qu'il n'aura pas tout donné, il va donner la moitié. Je pense que la moitié pour un riche, ça le laisse encore riche. Ça veut dire que il peut être riche tout en étant sauvé, tout en étant justifié. Et ça, je crois que c'est important. Hein, on s'imagine souvent qu'il faudrait qu'on est tous appelés à la pauvreté radicale et que si on ne le fait pas, ben on reste un chrétien finalement un peu médiocre. Ben non. On peut être un vrai saint tout en continuant à gérer un certain nombre de biens, à gérer une certaine richesse. Mais il faut le gérer dans le sens d'un regard sur les autres, d'une attention aux autres. Aujourd'hui, c'est important, hein. Pour quelqu'un qui possède des biens, il faut qu'il le gère comme il faut, mais dans le sens des autres. Peut-être qu'il va pouvoir, avec sa richesse, fournir un travail à quelqu'un, peut-être qu'il va pouvoir embaucher quelqu'un d'autre, etc. Tout ça, il ne peut pas le faire s'il n'a pas des richesses. Mais s'il a des richesses, qu'il les gère dans le sens du bien commun, dans le sens du bien des autres, alors il est tout à fait dans la ligne de ce que Dieu lui demande. Voyez ? Et on rejoint, je crois, une parole qu'on retrouve souvent chez Benoît XVI, qui dit « Avec le Christ, on ne perd rien, mais on gagne tout. » On gagne tout. La conversion au Christ, elle ne nous fera rien perdre. Si, un peu, si vous voulez, parce qu'il donne quand même la moitié, mais c'est pas pour ça qu'il va être privé des biens matériels, c'est pas pour ça qu'il va être privé de la vie, etc. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Mais le Seigneur voudrait nous libérer d'un certain nombre de choses. C'est pas pour ça qu'il va nous enlever tout. Vous savez, quelquefois, on peut avoir peur au moment d'une vraie prière, de dire au Seigneur, « Seigneur, je te donne vraiment tout ce que je suis, je te donne ma vie, etc. » Parce qu'on fait pas confiance à Dieu, vraiment. On lui fait pas confiance qu'en se remettant entre ses mains, on ne perd rien, mais au contraire, on gagne tout. Voilà, je crois que cet évangile il nous invite à découvrir ça. C'est une vraie joie qu'éprouve Zachée, c'est une vraie libération. Il est libéré du regard des autres, il est libéré d'une gestion mauvaise des richesses, mais cette libération, elle se traduit par une vraie et bonne gestion des richesses. Il reste dans l'état où il était, il reste avec la responsabilité qu'il a, mais grâce au Christ, tout ça prend une autre dimension, tout ça prend un autre éclairage, tout ça prend une autre respiration. Enfin, il trouve sa vraie place de responsable, enfin, il trouve sa vraie place de gérant d'un certain nombre de richesses. Voilà. Eh bien, je crois que dans cette Eucharistie, il faut que nous entendions cette parole qui nous est aussi adressée, là, aujourd'hui, maintenant, à chacun de nous, et qui a, on le sent bien, des résonances eucharistiques, hein. Zachée, c'est nous, c'est notre prénom, descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Chez toi. Voilà. Voilà ce que réalise l'Eucharistie. Et faisons comme Zachée, descendons. Vous voyez, quelquefois nous sommes un peu trop, nous chrétiens, dans la position de Zachée qui est encore sur son arbre, on regarde, mais on regarde de loin. C'est une position qui est peut-être un peu confortable, parce que ça ne nous engage pas beaucoup. Il faut qu'à la suite de cette présence de Jésus, on fasse comme Zachée. On s'avance. Il faut qu'on s'avance. Il faut qu'on ait le courage, parce que nous savons que le Seigneur est là, qu'il nous aime indéfectiblement, d'annoncer un peu plus, un peu mieux aux autres, que c'est la volonté de Dieu d'aller demeurer en chacun, d'aller demeurer à côté de chacun. Vous voyez, on a là le résumé finalement de toute la foi chrétienne, mais il faudrait que nous, le fruit de notre rencontre avec le Seigneur dans l'Eucharistie, ça soit de descendre de notre situation un peu éloignée d'observateur, hein, pour faire un pas de plus dans ce témoignage de Dieu, de la volonté de Dieu, cette annonce de l'amour de Dieu à ceux qui nous entourent. Amen.